Continuons cette lecture dans l'Aristote, la physique. Découvrir ce que c'est que ce principe immanent du mouvement et du repos, de ce qui est mu et de ce qui, je ne dis pas, se repose et est sans mouvement. Alors, c'est la distinction après avoir distingué, découvert ce principe immanent, de découvrir que ce principe immanent implique nature, matière, nature-forme. Oui, c'est une division à l'intérieur même de l'induction. Ce qui n'est pas commode à bien comprendre. Comment un principe peut-il impliquer deux ? C'est parce que ce principe est découvert à l'intérieur du devenir. Et que tout devenir implique une dualité. Et donc, il est normal de découvrir à l'intérieur de ce principe deux aspects ou une dualité. C'est ce que nous avons essayé de voir la dernière fois. Mais d'une autre manière, je reprends, je termine. Attendez. Je reprends un peu plus loin pour que nous comprenions bien. Si alors l'on dit de chacun de ces êtres qu'il subit cette même disposition relativement à quelques réalités autres, comme par exemple les reins ou l'or relativement à l'eau, les os et les bois relativement à la terre, et n'importe laquelle des autres réalités de semblable manière, l'on dira ces réalités autres être leur. L'on dira ces réalités, autres êtres, non, autres, être leur nature et leur substance. Pas très commode, là. Bien dit, bien comprendre. Ekeina ten fusin einain kai te usian oto. Alors c'est toujours ce passage de la phusis à l'ousia qui est très intéressant à voir dans la physique. C'est être leur nature et leur substance. D'où vient précisément que les uns disent que c'est le feu, d'autres la terre, d'autres l'air, d'autres l'eau, d'autres certains d'entre eux, d'autres tous, sont la nature des êtres. En effet, cela que l'un d'eux conçoit être de cette sorte, soit à lui seul, soit à plusieurs, cela même, et en son nombre exact, ils le disent être substance totale. Tandis que toutes les autres réalités en sont des affections, des avoirs et des dispositions. Et n'importe laquelle de ces substances, ils la disent exister pour toujours. Car ils disent ne pas exister pour elle un changement qui se produirait à partir d'elle. Tandis qu'ils disent les autres réalités advenir et se corrompre en nombre infini de fois. D'une certaine manière donc, à savoir de la façon susdite, la nature est dite la matière, sujet premier pour chacun des êtres, ayant en eux-mêmes un principe de changement et changement. Ça c'est très important, la petite conclusion ici. On va s'y arrêter. Avant, c'est tout simplement regarder les altérations. Et regarder que les altérations, les passages différents qu'on trouve au point de vue des changements naturels font qu'à la fois, il y a différence et à la fois, il y a quelque chose qui demeure. Et c'est ce quelque chose qui demeure qu'on va appeler matière. Donc, d'une certaine manière, de la façon susdite, la matière est dite, la nature est dite, la matière. Sujet premier pour chacun des ayant en eux-mêmes un principe de mouvement et de changement. Alors c'est ça qui est important à voir. C'est bien comprendre. Ena men un tropon utos effusis legeta. Et proté et casto hypocalminé ou lait. Donc c'est la matière première, proté ou lait et casto à chacun. Alors vous voyez que c'est à chacun. C'est ça qu'il faut essayer de saisir. Parce que ça c'est assez subtil. Donc on saisit un principe. Un principe immanent. Voilà le fruit de l'induction. Et on voit que ce fruit de l'induction n'est pas suffisant dans l'ordre de l'analyse. Il faut aller plus loin. Pourquoi ? Parce qu'on voit que ce principe immanent à chacun est casto. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ekasto ? L'ekasto à chacun. To enayan topo. Je retrouve, je crois, quand je suis devant ekasto, j'implique le point de vue de l'existence. C'est le principe immanent en chacun. Et c'est en chacun que je vois que ce principe immanent va impliquer une division. Où l'est la matière. Une matière radicale. Et puis, autre, la forme. Vous voyez, alors je crois que c'est ce passage entre, pardon, ce passage entre le principe et Casto. Qui fait seulement comprendre qu'on peut parler de où les matières. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce n'est pas le principe qui se divise, mais c'est le principe existant en chacun. Ça, c'est très important. La division n'est pas directement le principe, mais la division se fait au niveau de chacun. Chacun implique une division. Oui.
Est-ce que c'est la manière dont le principe existe en chacun ?
Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis existence. Le principe n'existe que dans l'intelligence. Tandis que le casto, il souligne. Autrement dit, si vous voulez... Je prends ça du point de vue, voyez, pour saisir bien comment l'intelligence saisit nature-forme et nature-matière. Nous répétons ça tout le temps, sans comprendre du tout. Alors, reprenons analogiquement. Quand il s'agit d'une œuvre artistique, puisque sous-jacent à toute réalité naturelle, il y a l'œuvre artistique. Dans l'œuvre artistique, je distingue tout de suite forme et matière. Immédiatement. Je ne parle pas de nature. La distinction première de matière et de forme, chez Aristote, se fait en premier lieu dans l'œuvre artistique. Quand il s'agit des réalités physique. La première saisie, c'est un principe immanent. Puis je retourne à chaque réalité naturelle. Et dans toute réalité naturelle, où il y a ce principe immanent, je vois qu'il y a deux choses. La nature forme et la nature matière. Ou la nature matière et la nature forme. Et je saisis en premier lieu la matière et ensuite la forme. Tandis que dans l'œuvre d'art, je saisis en premier lieu la forme, puis la matière. C'est inversé. Vous voyez, c'est pas si facile que ça, il est formiste d'Aristote. On en fait une division artistique. Même Gilson n'a pas saisi ça, alors que c'est si important, et c'est dit. D'une certaine manière donc, hein, d'une certaine manière donc, autos ena tropon un. C'est donc, d'une certaine manière. Et le donc, c'est comme une seconde induction. C'est pas une induction au sens absolu, mais c'est presque comme une seconde induction. Il y a une première induction, et puis une seconde. Vous voyez, c'est l'itinéraire bis. Il est second. Il présuppose le premier, puis il est second. Et si vous voyez attention, vous regardez toutes les réalités naturelles, et vous voyez qu'il y a un passage de l'une à l'autre. Comment se fait-il qu'il puisse y avoir une espèce de mélange, de passage des différents éléments les uns entre les autres? Comment ça se fait? C'est qu'il y a une matière. C'est pas le principe immanent qui explique. Donc vous voyez, il y a deux inductions d'une certaine manière.
L'altération
des choses, exactement. Et le passage. Vous voyez, l'une se prend en opposition avec l'œuvre naturelle et l'œuvre physique, et l'autre se prend à l'intérieur des œuvres naturelles, un passage de l'un à l'autre. Comment sait-il qu'il y a une corruptibilité d'altération dans le monde physique et entre les éléments? Alors, est-ce que c'est encore une induction au sens propre, ou est-ce que c'est mettre en lumière une division du principe immanent? Vous voyez, puisqu'il dit donc, j'ai marqué que l'induction, on peut dire donc, d'une certaine manière donc, de la façon susdite, la nature est dite matière. Il ne faut pas dire la matière, il faut dire matière. Où l'est. Sujet premier, proté, hypokaimene, oui. Alors proté regarde le sujet plus que où l'est. Oui, puisque la matière première, le sujet premier est casto. C'est ça qui m'intéresse. Anthropo, toainai anthropo. Oui, c'est l'être à l'homme, c'est l'être à chacun. On revient à la réalité expérimentée. La nature est dite matière, sujet premier pour chacun. Des êtres, donc pour chacun, des... à chacun, des ekonton, des ayant en eux-mêmes ce principe de mouvement et de changement. Alors c'est le métabolé à côté du kinéséos. Vous voyez ? Et c'est le métabolès qui montre comment j'arrive à la seconde induction. Mais d'une autre manière, la forme physique, donc c'est d'une autre manière, allanthropone, émorphée, kai to eidos, je ne dirais pas la forme physique, je dirais la forme tout simplement. Et l'eidos. Vous voyez comme c'est curieux. On dit matière et on dit la forme. Je crois qu'il y a quelque chose là. L'article et du côté de la forme et pas du côté de la matière. Parce que la matière est saisie comme matière. On dit pas la matière. Quand vous dites la matière, vous hypostasiez la matière. C'est-à-dire que vous dites matière. Et vous parlez de la forme. Alors on dit Eidos, oui, là, même dans la traduction, il y a une petite faute là. Il dit la matière est eidétique, la forme est eidétique et physique. C'est faux. C'est pas la forme eidétique et physique. C'est la forme et l'eidos. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important. La forme eidétique, ça, c'est une scolastique. Étant pour nous celle que l'on saisit, selon l'expression notionnelle. Donc, l'eidos, to kata ton longon. Qu'est-ce que c'est que l'eidos? C'est ce selon le logos. L'eidos, c'est selon le logos. Vous ne pouvez pas saisir l'eidos sans le logos. Tandis que vous saisissez la morphée dans la réalité. C'est très précis. De même, en effet, que l'on dit art, ce qui advient selon un art et ce qui est artificiel. Le katatechnen. Alors vous voyez, il y a sûrement une opposition entre le katatologon et le katatechnen. C'est curieux. Pour bien montrer la différence entre Eidos et l'art. De même en effet que l'on dit art, ce qui advient selon un art et ce qui est artificiel. Et le technikon, il faut mettre le technique, pas l'artificiel. C'est le technique. Pourquoi pas employer le mot français? Technikon. Tandis qu'artificiel en français prend une nuance tout à fait différente. C'est artificiel. L'art n'est pas artificiel. Il est technique. Et vous voyez, c'est curieux, hein. Alors là, c'est très fort comme précision. De même aussi que l'on dit nature, ce qui advient selon nature et ce qui est naturel. Ostophusis. To kataphusin, legetai, et to phusikon. Donc le naturel et le kataphusin. Donc vous avez, il me semble bien, à préciser la différence entre le kata to ton logon, le kata technikon, techniken, et le kataphusin. Il y a trois kata. Trois monsieur Kata. Il y a le père, le fils. Alors le Kata Tonogon, c'est l'intelligibilité. Le Kata Teknen, c'est ce qui est fait par l'art, c'est l'œuvre. Et le Kata Fusin, c'est ce qui est fait par la Fusis. Très joli ça. Je crois que c'est très important, vous voyez. J'espère que vous voyez bien tout ça, parce que ça me semble très net que Aristote s'amuse intellectuellement. Chaque fois qu'Aristote s'amuse, c'est très sérieux. La kata, ton logon. Et alors c'est intéressant que c'est quand même le kata ton logon. Je crois qu'il faut souligner en mettant les accents, hein, comme vous voulez les mettre. Kata ton logon, le to le tokatatonogon. Puis ensuite, vous avez le tokata. Alors, y a-t-il une différence du fait qu'il met l'article au tologone ? Oui ? Je sais pas. Kataf teknen, kataf usine et tologone. Ce qui veut exprimer quelque chose. Vous voyez, le tologone, c'est l'intelligibilité. Kata teknen fait appel à un principe et kata fusine fait appel à un principe. Tandis que le tologone ne fait pas appel à un principe. Ça fait appel tout simplement à l'intelligibilité. C'est quelque chose qui est immédiatement pour l'intelligence, pour le logos. Voyez, c'est curieux, c'est intéressant à voir que ici on est en face de l'immanence, ici on est en face de l'extériorité, et le katatonogon n'est ni extérieur ni immanent. Ça, principe extrinsèque, principe immanent, et ici le katatonogon. C'est ni extrinsèque, ni immanent. C'est selon l'intelligibilité, selon le logos, selon la connaissance. Vous savez, le katatonogon, chez Aristote, ça prend des modalités très différentes. Mais c'est ce qu'il veut montrer. C'est que la forme est porteuse d'intelligibilité. C'est l'intelligibilité. Mais l'intelligibilité n'est pas extrinsèque, ni immanente. Or, tout comme nous le disons, tout comme nous ne disons la même, aucune chose avoir quelque conformité à l'art, si elle n'est un lit qu'en puissance, et n'a en aucune façon la forme eidétique du lit, non plus art, et nous ne disons pas non plus art. En puissance. Donc c'est la matière en puissance lit. La matière en puissance lit n'a aucune façon la forme eidétique du lit. C'est évident. Voilà, vous voyez, il faut bien comprendre. Hein, la forme eidétique du lit vient s'ajouter de l'extérieur à la matière. Tandis que la forme naturelle ne s'ajoute pas de l'extérieur à la matière. De même, nous ne disons rien de tel dans les réalités constituées par nature, la chair ou l'os, en puissance en effet. D'autre part, n'a en aucune façon la nature, qui sera la sienne, avant de recevoir la forme eidétique, qui se dit selon l'expression notionnelle, donc selon l'expression du logos, celle que nous énonçons en disant ce qu'est la chair ou l'os. Et qui reprend les trois. Hein. Curieux. Vous reprenez les trois. Ça prouve qu'il y tient. Alors je reprends. Parce que c'est pas commode, hein, ça, comme application. Or, tout comme nous ne disons la même, aucune avoir conformité à l'art, si elle n'est un lit en puissance et n'a en aucune façon la formalité du lit, non plus art. De même, dans les constitués par nature, donc la réalité naturelle, la chair hausse en puissance, en effet. D'autre part, n'a en aucune façon la nature, la sienne avant de recevoir l'eidos, qui, selon l'expression notionnelle, donc l'eidos, selon l'expression notionnelle, celle que nous énonçons en disant ce qu'est la chair ou l'os, ce que nous énonçons, ce que nous connaissons. Donc l'eidos est toujours relatif à la connaissance. D'autre part, n'est pas par nature. Je crois que dans ce petit passage, Aristote veut montrer la différence, mais c'est pas comme ça, c'est pas très explicite, la différence qui existe entre le point de vue de la matière et l'eidos do catalogon, la matière et la forme artistique, la matière et la nature-forme. Vous voyez? Étant donné qu'on raisonne toujours sur le couple matière-forme, si vous distinguez les trois, l'eidos do catatonogon, l'eidos par rapport à la technen, donc l'œuvre, l'eidos dans l'œuvre, et l'eidos au niveau de la phusis, la morphée, vous avez parallèlement la matière. Chaque fois que je distingue forme, je distingue la matière. La relation matière-forme n'est pas la même selon le kata-tonogon, le kata-teknen et le kata-fusin. C'est ça qui va montrer. De sorte que, d'une autre manière, la nature des réalités ayant en elle-même un principe de mouvement serait la forme physique et eidétique, forme qui n'existe pas séparée, sinon selon la notion expressive. Quant à ce qui est composé à partir des deux natures, d'une part, ce n'est pas une nature, mais d'autre part, cela est et devient par nature. Ainsi, par exemple, un homme. Vous voyez, après avoir vu la différence entre forme, matière, on voit la différence entre le composé. L'unité entre l'eidos et la matière, entre la détermination technique et la matière, entre la morphée et la matière, l'unité n'est pas la même. Et on le voit du fait même que seule la forme naturelle fait un être naturel, principe du mouvement. Alors que l'eidos et la technen fait une œuvre sans mouvement propre. C'est très astucieux. Vous voyez bien ça? On continue. Et cette nature que nous venons d'expliciter l'est davantage que la matière. En effet, chaque réalité est exprimée par nous au moment où elle existe, en acte, plutôt qu'à celui où elle existe en puissance. De plus, un homme advient à partir d'un homme, mais non un lit à partir d'un lit. C'est une évidence. Mais c'est intéressant que l'homme intervient comme exemple. Parce qu'on pourrait croire que la physique est en dehors de l'homme. Et pour nous, puisque nous formalisons davantage en disant que c'est à partir de l'homme qu'on fait la philosophie de la matière. Ce n'est pas étranger à Aristote. Mais chez Aristote, c'est plus la nature. Vous voyez, ça revient au même. Il prend la génération comme mouvement, pour qu'on comprenne mieux. Un lit n'engendre pas, tandis que l'homme engendre. Ce qui prouve que l'unité entre la forme et la matière dans l'homme est autre chose que la forme artificielle et la matière. D'un côté, vous arrivez à un être technique, de l'autre côté, vous arrivez à un être naturel. L'être naturel seul a capacité d'engendrer, parce qu'il est parfait. Tandis qu'un être qui implique une forme artificielle et une matière n'engendre pas. Le lit n'engendre pas. Pourquoi le lit n'engendre-t-il pas? Pourquoi? Parce que c'est un être imparfait. C'est un mulet. Donc il n'engendre pas. Oui.
Est-ce qu'on peut pas, sans parler de génération dans l'engendrer, est-ce qu'on peut parler dans une forme artistique de dans l'œuvre, dans une œuvre proprement
technique?
Non, plutôt la peinture ou la musique, d'un engendrement. Au niveau, ce que je veux dire, au niveau des émotions.
Oui, je. Tout à fait. La fécondité dans celui qui écoute.
Oui,
je voyais bien arriver l'objection. Oui, mais c'est extrinsèque. L'œuvre de musique existe indépendamment de celui qui écoute. Mais évidemment, elle n'est achevée que dans celui qui écoute. L'œuvre d'art devrait remercier celui qui écoute. Enfin, je suis utile à quelque chose. Parce que j'engendre en toi une émotion. Tandis que si tu n'étais pas là, mon œuvre serait inféconde. Tandis que la nature connaît la fécondité indépendamment de celui qui écoute. La petite souris engendre des petites souris, même si je ne fais pas la philosophie de petite souris. Tandis que l'artiste n'est fécond que s'il y a quelqu'un qui l'écoute. Mais le premier qui écoute, c'est l'artiste. Il écoute mal parce qu'il est l'artiste. Je peux dire ça, mais vous voyez, Aristote ici se tient plus à l'œuvre comme telle. Là, c'est extrinsèque. Je suis d'accord avec vous. On pourrait dire ça, mais c'est extrinsèque. Tandis qu'ici, il regarde dans l'immanence de l'œuvre. Le lit n'engendre pas un lit. Et le lit peut engendrer une admiration. Vous voyez un lit admirable. Mais alors il engendre l'admiration. S'il engendre l'admiration, et donc il a une certaine fécondité. Mais une fécondité qui est extrinsèque au lit. Oui. Qui est l'émotion de celui qui le regarde. Chaque réalité, donc. D'où vient aussi qu'ils disent que ce n'est pas la figure du lit qui en est sa la nature, mais le bois. Parce qu'il adviendra, s'il germe, non un lit, mais du bois. Il faut vraiment qu'il soit tout à fait frais, ce bois. N'est pas un lit de Louis XIV. Vermoulu. Si Si donc cette figure est art, ici aussi, la forme physique est nature. C'est bien à partir d'un homme qu'advient un homme. C'est à partir du bois que naît le bois. De plus, vous voyez ce que fait Aristote ici. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut montrer la supériorité au point de vue ontologique de la nature par rapport à l'art. L'art a une supériorité sur la nature au niveau de la forme, mais pas au niveau de la matière. Au niveau de la matière, l'art mendie son bien. Et au niveau de la matière, la nature l'emporte. Mais au niveau de l'eidos peut devenir indépendante. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'Aristote maintient toujours Morphée eidos. Hein. C'est très très curieux ça. L'eidos n'est parfaitement eidos que dans une œuvre artistique. Mais l'eidos est eidos même dans la nature, en attente de statut. Le bois gémit comme eidos de devenir une statue. Vous entendez ça? En traversant une forêt, les gémissements du bois de devenir statue. Et le sculpteur, quand il traverse une forêt, entend les gémissements du bois qui désire venir statue. Il y a un appel particulier. C'est pour ça qu'on dit eidos, qu'on ne dit pas seulement morphée. La morphée ne gémit pas. Elle est entièrement immanente. Tandis que la morphée gémit parce qu'elle demande d'être libérée du bois. C'est comme les petits démons qui sortent de l'homme et qui vont dans les petits cochons. Hein, ils trouvent une autre matière. Et j'ai mis de trouver une matière. Et l'eidos dans le bois, j'ai mis de devenir eidos de l'airain. C'est très curieux. C'est ça qu'Aristote voit. Qui essaie d'exprimer comme il peut. C'est très très curieux ça. Montrer à la fois la supériorité et l'infériorité de l'art par rapport à la nature. Et on voit très bien que c'est un dialogue constant entre art et nature. Art, nature et intelligence. Oui.
Dans ce chemin de sagesse, est-ce que la forme de la nature ne serait pas supérieure à la forme artistique?
Elle est supérieure sous le point de vue de la génération. À cause de son lien substantiel avec la matière. Mais l'eidos artistique est supérieur à la forme de la nature, elle est libérée de la matière. Elle peut habiter dans un autre lieu. Tandis que la morphée ne peut habiter que dans un seul lieu. Et donc il y a une supériorité. Kata tonogon. C'est cette chose très étonnante. Et ça, je crois que c'est très intéressant. Parce que ça fait comprendre ce que c'est que la détermination et la forme. L'eidos artistique peut habiter diverses matières. Vous faites un cercle dans l'airain. Vous faites un cercle dans le bois. Vous faites un cercle sur le papier. C'est toujours eidos. La même eidos. Mais cet eidos perd sa fécondité pour entrer dans l'universalité. Elle n'est féconde, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Elle n'est féconde que liée à la matière substantiellement. C'est très curieux ça. Vous voyez. Au fond, la manière dont Aristote secoue dans les différents sens la relation nature-art. Vous voyez, c'est toujours ce dialogue entre les deux. Et c'est ça qu'on a beaucoup trop oublié. Ou alors, on ne l'a pas oublié du tout, et c'est la manière dont certains, Hamelin entre autres, disent que Aristote ne conçoit la nature que par l'art. c'est vrai analogiquement. Mais ce n'est pas vrai d'autre part. Aristote conçoit la forme par l'art, mais conçoit la matière par la nature. Ça qui est très curieux. C'est pour ça que c'est vraiment la philosophie de la matière. Et le premier analogué de la forme, c'est quand même l'aïdos, donc la forme artistique. Le premier analogué de la matière, c'est la matière d'une œuvre naturelle. La matière n'est parfaitement saisie qu'à l'égard de la nature, tandis que la forme n'est parfaitement saisie qu'à travers une œuvre d'art. C'est ça, je crois qu'Aristote se prouve comme ça. Diverses formes, disant que tout ça, c'est quand même curieux. C'est vrai, c'est très curieux. C'est très grec. Ce qui vient naturellement à l'être s'avance à partir de quelque chose. Alors on va continuer. De plus, la nature, celle qui est dite telle, comme faisant naître, fousaï. Iti ephousis et legomenen os genesis oidos esti eis phousin. De même, la nature, celle qui est dite comme faisant naître, est la voie à la nature. Ça, c'est beau. Hein? Esti de ephousis. Et legomenen, os, genesis, oidos, esti, eisphosin. Elle est la voie vers la nature. La nature, par la genesis, est voie vers la nature. C'est beau comme manière d'exprimer ce que c'est que la nature. Vous ne pouvez pas dire ça d'une œuvre d'art. L'œuvre d'art n'est pas une voie, tandis que la nature est voie. La nature est source de devenir, et ce devenir est une voie vers la nature. Tandis que l'œuvre d'art, c'est un point d'orgue. Ça se termine, il n'y a rien après. C'est bien, c'est le truc de Michel-Ange qui se frappe sur son Moïse en disant maintenant, oui. Et ça n'a pas donné petit depuis Michel-Ange. L'œuvre d'art n'est jamais oidos, odos. C'est jamais une voix. Il y a là quelque chose de très important à saisir, vous voyez. L'œuvre d'art est une. Et ce que dit Malraux. Vous voyez, c'est quelque chose qui lutte contre le destin, anti-destin. Tandis que la nature demeure dans le destin, odos. De même, les soins médicaux ne sont pas dits la voie qui conduit à l'art médical, mais à la santé. Puisque l'œuvre médicale vient adjuvans naturam, pour que la nature soit plus forte et soit plus elle-même. Le médecin s'efface devant la nature. Et le médecin, quand il ne s'efface pas devant la nature, est un mauvais médecin. Ça fait penser à beaucoup de choses. Car il est nécessaire que les soins médicaux existent en dépendance de l'art médical, non comme conduisant à l'art médical. La finalité de l'art médical n'est pas l'art médical. La finalité de la nature est la nature. De même, ce n'est pas ainsi que la nature a rapport à la nature, mais ce qui vient naturellement à l'être s'avance à partir de quelque chose, en tendant vers quelque chose. Vers quoi viennent-ils donc naturellement à l'être? Non pas vers ce à partir de quoi ils s'avancent, mais vers ce vers quoi ils tendent. La forme physique, donc, est nature.